Une semaine plus tard, au fond d'une cave dans un quartier parisien, l'araignée pond des œufs. Un mois plus tard, dans les caves de Paris, il y a des milliers de petites araignées, car elles pondent elles aussi et se multiplient très vite. Dans un café, une femme sert les clients au comptoir. Elle est petite, rieuse. Son patron, un gros, lui dit « Va à la cave, chercher du rouge. » Elle soulève la trappe et descend à la cave. Va vers les rangées de rayons de verre, en prend une bouteille, puis deux. Elle vient de se faire piquer par une araignée. Elle vient de se faire piquer par une araignée. Une petite piqûre de rien du tout. On n'y fait même pas attention. Cela lui fait pas mal. Au fur et à mesure que la journée avance, elle a un cafard terrible. Elle goûte à rien. Se sent mal. Elle ne croit plus à la vie. En entrant chez elle le soir, en longeant la Seine, une envie terrible lui prend de se jeter. L'eau l'attire comme une délivrance, comme un lit de repos. Elle le fait. Un homme, en se rasant, se fait piquer par une araignée qui est venue de la canalisation sur le lavabo. Il y a des tas de gens qui se font piquer par des araignées et qui deviennent dépressifs, suicidaires. Le poison leur coupe toute énergie. Ils n'ont envie de rien. Et après, le dégoût devient tellement fort qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se donner la mort. Ceci est dû par un dérèglement des sens. Les sens sont incapables de trouver du plaisir et de... Le cerveau est incapable 2, prévoir l'avenir. Alors l'être se sent enfermé dans un univers norme sans joie. N'a qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Et pour cela, il ne voit qu'une seule solution, c'est la mort, le repos éternel, car il est fatigué d'un monde où il n'y a rien pour lui, où il ne trouve pas de plaisir. Il y a de plus en plus de suicides. Les gens se suicident chez eux, avec du poison, avec un couteau, un coup de revolver, se défenestrent, se jettent de la tour Eiffel, sautent des trains, de voitures, etc. On se demande pourquoi tant de suicides ? Est-ce dû à la dégradation sociale ? On fait autopsier ces malheureux et on en trouve un produit dans leur corps bizarre. Les chimistes recherchent ce que c'est. Un chimiste a donné un échantillon à Riquin pour qu'il puisse voir. Après analyse, il comprend tout de suite ce que c'est. C'est le poison de mes araignées. Comment a-t-il pu s'évaporer ?
Vite, il va au laboratoire, au produit, où se trouve un immense coffre. Avec dedans d'autres petits coffrets qui ressemblent à des coffres-forts. Il voit que rien ne manque. Chaque fois que l'on prend un produit, il est noté. Noté, le produit pris et le pourquoi. Là, rien n'a été pris. Et les araignées. Il va voir un autre coffre. Il y a des bassins fermés où se trouvent des insectes ou petits animaux. Il regarde le carnet où est jeté les entrées et sorties. Et voit qu'il n'y manque rien.
Fait une enquête. Personne ne l'a pris. Un voleur de laboratoire, quelqu'un qui cherche à faire le mal, il convoque dans la salle des conférences, tout son personnel, et leur dit. Il a disparu du magasin un bassin qui contenait l'araignée EG53. J'aimerais savoir qui l'a prise et pourquoi. Personne ne dit mot. On fait des recherches dans le laboratoire. Rien. Et un soir, avant de partir, un médecin dit à Riquin :
Et les femmes de service ?
Vous avez raison. Il convoque toutes les femmes de service, leur explique ce que c'est et le danger pour elle et les autres. Une grosse femme, dans les 50 ans, en pleurs, lui dit
« C'est moi, monsieur, qui ai fait tomber le bocal. Mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. J'ai ramassé le verre et voilà. »
« Et pourquoi ne pas m'avoir prévenu ?»«
Parce que j'avais peur de perdre ma place. »
Pour une chose aussi grave et qui a causé des milliers de morts, je vous renvoie.
Puis, vite, Riquin fait chercher un contrepoison qui pourrait tuer en même temps les araignées. La télévision, la presse, la radio, tous ont dit de se méfier des araignées tueuses. Il y a de plus en plus de suicides qui continuent à se succéder. Et la phobie de l'araignée. Chaque fois que quelqu'un voit une araignée, il prend tellement peur qu'il est prêt à se jeter dans le vide. Les jours passent. Tout le monde a peur et n'ose aller à la cave ou au grenier. La moindre toile d'araignée fait sauter les gens, sortir les gens de chez eux. Les suicides continuent à se multiplier de jour en jour. Les médecins journalistes disent que si l'on voyait quelqu'un en pleine dépression, il devait le mener d'urgence à l'hôpital et ne jamais le laisser seul, bon, seulement une minute. Malheureusement, rien n'y fait. Et la plupart du temps, on amène aux médecins des gens qui ne sont pas déprimés. Le petit pépé qui marche à petits pas. Les gens qui ont le regard triste, celui qui n'a pu manger. Après quelque temps, Riquin et son équipe ont trouvé un contrepoison tueur d'araignées. On décide de vacciner les gens. Et en plus, de prendre le produit, de le répandre dans les airs pour tuer les araignées. Les produits sera jeté dans les airs en hélicoptère pour tuer les araignées. La vaccination se fait dans les hôpitaux, écoles, etc. Il y a foule car tout le monde craint les araignées. C'est 20 francs le vaccin, encore de l'argent dernier, pour jeûne tout. On fait partir en hélicoptère bourré de barriques d'insecticides. L'hélicoptère survole le ciel de la capitale et déverse son produit. Le chauffeur, après autopsie et enquête, lui aussi, avait été empoisonné. Mais comme l'hélicoptère est tombé et en tombant a déversé son produit, Riquin se dit que ça doit être bon. Un mois plus tard, il n'y a plus de suicide ni d'araignée. Tout est normal, tout est entré dans l'ordre. Mais au fond d'une cave se trouvent des œufs qui ont été pondus. Personne ne le sait. Les jours passent. J'ai oublié de dire, c'est que l'hélicoptère était tombé sur le toit d'une maison et tout avait explosé parce qu'il avait été piqué par une araignée. Philippe a appris par Lucien, au cours d'une soirée, ce qu'il avait fait avec le corps et le cerveau de Félicien Pontois. Lucien lui dit encore, c'est dégoûtant de voler les morts à la famille et de les faire travailler. Je suis fâché à mort contre Galien.
C'est du bonheur.
Philippe lui dit,
seulement c'était vrai.
Je te comprends. Moi aussi, je n'aurais pas été content de ce qu'il a fait.
Non, rien, j'avais cru entendre quelque chose.
J'en ai marre, Arnaud.
Bah raconte. Je t'en ai mis, non?
Oh, tout va de travers. On risque de perdre le haras.
Mais vous venez encore d'acheter 3 chevaux?
Bah ouais, je comprends pas. C'était une affaire saine, mais j'ai la vie plantée quelque part.
Lorsque Philippe revoit Galien, il lui dit « Tu dois arrêter tes expériences avec les morts. Les morts doivent rester morts. Tu ne dois pas les faire revivre. Et puis, il y en a assez de ces expériences pour transformer la nature, avec ces histoires d'ADN, de bactéries, de fruits bizarres, de corps de bête étrange. Laisse la vie comme elle est. Tu me dégoûtes avec tout ça. » Galien lui dit, je comprends, mais toutes ces découvertes, ces recherches peuvent être utiles pour soigner des maladies qui jusque-là sont incurables. Elles peuvent aider à nourrir plus de monde et au moindre frais. On peut faire pousser dans le désert des fruits, légumes grâce à ça. Quant aux cadavres, il faut avancer la science humaine. Et puis, malgré tous nos parents, morts peuvent continuer à parler avec nous. C'est beau, non ?
Philippe lui dit : Oui, mais que de problèmes moraux, de société ?
Galien lui dit : Pas plus qu'une guerre. Là, ce que nous faisons, c'est une guerre à l'envers. Au lieu de détruire, on va protéger la vie, toute la vie. Et que chaque espèce vivante ne nuise à d'autres. Que les microbes ne nuisent pas aux vivants. Que les insectes ne nuisent pas aux cultures. Que l'on ne nuise pas aux insectes, car on en a besoin pour les oiseaux, etc., etc. Bien sûr, cette guerre à la vie crée des débordements, comme l'autre guerre, avec ses ruines et ses morts.
De toute façon, quoi qu'on fasse à la paix, le monde ne sera plus jamais comme avant. C'est fini. Ce que l'homme trouve ne peut aller dans l'oubli.
Galien est dans son bureau, le téléphone sonne. Il décroche.
Allô ? Monsieur, il y a une dame qui désire vous parler.
A-t-elle rendez-vous ?
Non, monsieur, mais elle dit qu'elle a une information très importante à vous dire.
Quelle information ?
Cette dame dit que c'est confidentiel.
Galien soupire. Bon. Je la prends un quart d'heure. Faites-la entrer de suite.
Bien, monsieur.
On sonne à la porte. Galien voit sur le téléviseur sa secrétaire et une femme, grande, mince, cheveux blancs, plaqués, bien peignés, visage dans les 60 ans, habillée d'un tailleur gris. Il dit : Entrez ! La secrétaire fait entrer la dame et referme la porte. Galien se lève et dit : Madame, venez vous asseoir, je vous en prie. Et elle va s'asseoir.
Galien lui dit : Je vous écoute, madame.
Voilà, monsieur, je suis venu vous dire c'est que vous n'êtes pas l'héritier de Genetou.
Je ne comprends pas, madame.
Eh bien, monsieur, Genetou a eu un fils, et c'est lui qui, normalement, devrait être à votre place.
Expliquez-moi.
Monsieur Genetou a un fils avec mademoiselle Karine Lapère. Et ce fils a été tué parce qu'il n'était pas d'une origine suffisamment noble. Mais, Galien lui dit, puisqu'il est mort, il ne peut être à ma place.
Elle lui dit,
il est peut-être mort. Qui sait ? On a donné l'ordre de le tuer, mais... Je suis venu vous prévenir, car s'il n'est pas mort, vous risquez pour votre vie. Il y aura sûrement un clan pour le fils.
Elle se lève et lui dit :
Je n'ai rien d'autre à vous dire.
Galien lui demande : Pourquoi m'avez-vous prévenu ?
Elle lui dit : Peut-être parce que je suis de votre côté. Peut-être que je connais l'autre et qu'il ne me plaît pas. Qu'il risquerait de provoquer des catastrophes au monde. Je ne sais pas. Vous êtes plus sérieux, moral.
L'autre ne peut être qu'une bête, une bête terrible. »
Caïn lui dit,
« C'est donc que vous l'avez déjà vu. Et où est-il ? » ?»«
Je ne sais pas. Il est peut-être déjà chez vous. »
« Comment ? » ?»«
Une personne que vous côtoyez souvent et aimez bien. »
« Qui ? » ?»«
Protégez-vous bien et ayez confiance en personne. »
« Qui est-ce ? » ?»«
Non. » »«
Votre nom, madame ?»«
Mais je peux vous dire le mien. Je suis madame Adélaïde Morel. »
Et qui êtes-vous ?
J'étais la première maîtresse de Genetou. Vous ne vous souvenez pas ?
Peut-être, mais les femmes changent tellement facilement.
Elle lui sourit et lui dit :
J'ai plus rien à vous dire d'autre. Au revoir, monsieur.
Et elle le quitte. Une fois qu'elle est partie,
Galien prend son téléphone. Allô, faites suivre cette femme qui sort de mon bureau. Urgent. Merci.
Une heure plus tard, on téléphone à Galien.
La femme a pris une Rolls noire. Nous l'avons malheureusement perdue.
Merci. Cherchez-moi tous les renseignements sur Adélaïde Morel. Merci.
Semaine plus tard, l'on dit à Galien qu'aucune personne ne s'appelle comme ça. Mystère ou une folle. Les jours passent.
Soir, Galien, après dîner, se sent là.
Il va dans la salle de bain pour prendre sa douche.
Et a décidé, c'est d'aller se coucher tout de suite après son repas.
voit dans sa chambre, il se met au lit.
Une fois dans son lit, il s'endort d'un coup, d'un sommeil sans rêve. Sommeil profond, le trou noir. Il n'entend pas, ne sent plus, il est comme en dehors du monde.
De sa chambre s'ouvre. Quatre hommes, habillés de costumes noirs, entrent dans la chambre. Le soulève, deux par les jambes et deux par les pieds. Et le sortent de la chambre. Kavien dort tellement profondément qu'il n'entend ni ne sent.
Une fois dehors, on l'amène à une voiture. On le met à l'intérieur de la voiture, son siège entre deux hommes. Et la voiture est partie dans la nuit.
Après plusieurs heures de route, la voiture s'est arrêtée devant le château. Galien dort toujours aussi profondément. Guillaume et les domestiques sont dans leur lit et eux aussi dorment très profondément. On mène Galien dans les sous-sols du château. Le même parcours que vous avez déjà fait, que vous connaissez déjà. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.